petit mais costaud. C'est ce qui est venu à mon esprit pour parler des 12 petits prophètes dans la Bible. Ce sont 12 petits livres de prophètes. Ils sont petits mais costauds. Ils ne sont pas moins importants dans l'histoire d'Israël ni dans la force et la pertinence de leur discours que les livres plus denses dans l'écrit des prophètes comme Ésaïe ou comme Jérémie, Ézéchiel. C'est beaucoup de livres, enfin c'est des livres assez denses, n'est-ce pas? Nous vous invitons pendant 2 mois, on ose, à redécouvrir des auteurs ou des acteurs incontournables pour mieux comprendre non seulement l'histoire biblique, mais aussi le message global de Dieu qui se révèle à nous. Et je prie que notre connaissance de Dieu s'approfondisse pour une relation plus profonde avec lui, afin de l'honorer et de le servir de mieux en mieux. Nous allons commencer par le livre d'Osée. J'ose, hein ? C'est le premier des petits prophètes dans notre Bible, mais cela ne veut pas dire qu'il est le premier dans l'ordre chronologique. Les prophètes Jonas, Amos, Joël et sans doute Abdias ont prophétisé avant lui ou en même temps que lui. Osée est le premier de la série, certainement à cause du volume d'écrit plus important que les autres. Osée, vous l'avez entendu, est un prophète. Son nom signifie « sauve ». C'est l'un des prophètes les plus profonds de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. C'est aussi l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui dépeint la grâce et l'amour de Dieu de la manière la plus étonnante et aussi la plus éclatante. On l'a appelé aussi le prophète évangélique. Parce qu'un siècle avant le prophète Jérémie, il annonçait déjà la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Waouh, nouvelle alliance, cet engagement de Dieu envers nous. Mais qu'est-ce qu'un prophète ? On a tendance à dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Mais ce n'est pas que cela. Il faut plutôt dire qu'un prophète est un porte-parole de Dieu, revêtu de son autorité, de son esprit, pour communiquer son message aux hommes, aux femmes. De manière générale, les prophètes annoncent les péchés du peuple d'Israël, le châtiment de Dieu, et s'achèvent par une note de grâce, de victoire et d'espérance pour l'avenir. Dans son livre, Osée s'adresse au royaume du Nord, Israël, souvent appelé Éphraïm, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ses avertissements concernent aussi occasionnellement le royaume de Juda. Osée semble intervenir publiquement, par intermittence, et ses discours s'étalent sur une période, on pense, de plus de 25 ans. Ça fait beaucoup. Osée voit se succéder sur le trône d'Israël pas moins de 7 rois. Le message essentiel du livre d'Osée est la dénonciation de l'idolâtrie qui accompagnait la prospérité du peuple d'Israël. L'idolâtrie. Alors, allons-y. Le livre d'Osée commence d'une manière surprenante, voire choquante, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Lisons Osée chapitre 1, juste les versets 1 à 3. Je vous laisse le temps de trouver cela dans votre Bible. Osée chapitre 1, nous lirons les versets 1 à 3. Je cite, « L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béri, sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, et roi d'Israël. » Première partie des paroles de l'Éternel, que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va !» Prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomer de Diblaïm. Fin de citation. C'est choquant, n'est-ce pas? Il est déjà arrivé que des prophètes miment quelque chose pour donner un message fort de la part de Dieu. Mais là, c'est plus que surprenant. Osée doit se marier avec qui? Une prostituée. Pour illustrer les Israélites qui se vautrent dans la prostitution en se détournant de Dieu. Comment est-ce possible que Dieu demande une chose pareille à son prophète? Pourquoi Dieu qui est saint, parfaitement saint, ordonne-t-il à son serviteur d'épouser une femme de mauvaise réputation? Est-ce un songe, une vision, une illustration ou la réalité? Rien ne l'indique dans le texte. Tout porte à croire que nous sommes en présence d'une histoire réellement vécue, mais qui a une portée symbolique. Ce qui est clair dans notre texte, c'est que le mariage du prophète avec Gomer la prostituée devait illustrer la relation d'alliance entre Dieu et Israël. Gomer la prostituée représente le peuple de Dieu et le prophète représente Dieu. Leur histoire illustre les péchés et l'infidélité d'Israël et aussi de l'autre côté l'amour authentique, éternel et jaloux de Dieu. Comme plusieurs commentateurs le pensent, je suis tenté de voir en Gomer une femme qui était avant sexuellement pure au moment de son mariage avec le prophète et qui n'a sombré que plus tard dans l'adultère et l'immoralité. Il me semble que l'ordre de prendre une femme prostituée devrait donc être compris comme une anticipation de l'avenir, une prédiction d'une déchéance future de cette femme. Comme Dieu qui avait pris le peuple d'Israël pour le combler de son amour et qui savait très bien à l'avance quelles étaient ses dispositions profondes. Dieu voyait déjà l'avenir et savait très bien que son peuple allait se détourner de lui. C'est ma pensée sur le texte. Écoutons maintenant la suite du livre. Verset 1, donc chapitre 1, verset 3 à 9. Donc Gomer, la prostituée, il est dit ceci, « Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Jisréel, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jisréel et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. » Gomer fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. Deuxième enfant. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-la Lo-Ruhama, la non-aimée, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je ne lui accorderai plus mon pardon. » Wow. « Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda. Et moi, l'Éternel, son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, et non pas par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. » Après avoir sevré le roi Ma, Gomer fut encore enceinte et elle donna naissance à un fils, troisième enfant. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis rien pour vous. » Fin de citation. Waouh ! Les noms des enfants annoncent ici le jugement que l'Éternel réserve à son peuple. Le premier vise la dynastie royale à laquelle il mettra fin. Le deuxième, le peuple auquel l'Éternel retire son amour. Et le troisième signale la rupture de la relation d'alliance entre Dieu et Israël. Mais il n'y a rien de pire pour le peuple d'Israël que de tels jugements. Mettre fin à la royauté d'Israël, ne plus recevoir l'amour de Dieu, son pardon, et ne plus être son peuple, c'est terrible. Cela ressemble à une rupture définitive, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu est-il si dur? Pourquoi annonce-t-il des jugements aussi terribles? Eh bien, parce que le peuple de Dieu a plus que dépassé les bornes. Voici les péchés que Dieu révèle des Israélites dans le chapitre 2. Et je ne relève que ceux du chapitre 2, il y en a d'autres. Ils ont oublié le vrai Dieu qui les avait sortis de l'esclavage en Égypte et qui avait toujours pris soin d'eux. On trouve ça dans le verset 15. Ils se sont tournés vers Baal, un faux dieu, pour leur prospérité. Verset 7. Ils donnent leur offrande à Baal, ce faux dieu. Verset 10. Alors là, c'est très grave. Ils attribuent leur prospérité aux idoles de leurs voisins au lieu de l'attribuer au vrai Dieu. Quelqu'un vous offre un cadeau, mais vous dites merci à quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous savez très bien qui vous l'a offert. Et puis enfin, ils rendent un culte au Dieu Baal. Et ce qui est surprenant dans le verset 15, c'est que ça parle de plusieurs dieux, Baal. Le dictionnaire biblique nous détaille les péchés du peuple de Dieu ainsi, dans cette période. Au temps d'Osée, la masse du peuple adhérait au culte corrompu de Baal et aussi d'Achéra, le plus immoral de tout l'Ancien Orient. Plusieurs fois par an, les fêtes de ces divinités étaient accompagnées de prostitution rituelle, d'actes de violence et de scènes d'ivrognerie. D'autre part, les alliances politiques remplaçaient la confiance en l'Éternel. Or, ces alliances impliquaient aussi l'acceptation des divinités de la nation alliée. Mes amis, les péchés du peuple de Dieu sont graves. Dieu a le cœur meurtri par les infidélités de son peuple. Malheureusement, ce texte montre une réalité actuelle. Il est arrivé à plusieurs reprises que des églises se soient livrées à d'autres dieux, ou ont laissé entrer petit à petit des péchés. D'autres églises se sont livrées à des pratiques non bibliques et dangereuses. La parole de Dieu nous révèle ici un danger. Il peut nous arriver, à nous chrétiens, de courir après d'autres dieux, ou je dirais plutôt après d'autres amours, comme Gomère, la prostituée qui a couru après d'autres hommes. Il y a l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour de la reconnaissance sociale, ou des plaisirs divers comme la pornographie. Et puis, toutes sortes d'excès dans le plaisir, dans plusieurs domaines, achats en tout genre, alcool, jeux vidéo et j'en passe. Ces amours ont pris une grande ampleur depuis l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. La pandémie n'a fait qu'accélérer les choses. L'accès au plaisir est devenu rapide et illimité. Et on peut prendre plaisir dans ces choses-là de manière cachée, sans qu'on ne nous voie. Tout ce que le monde nous propose peut être très attrayant, attirant, et peut prendre une place démesurée dans notre vie, au point de prendre la place qui revient à Dieu seul. Mes amis, qui règne dans notre cœur? Qui a la première place dans notre vie, dans nos pensées? Après quoi courons-nous? Que faisons-nous quand personne ne nous voit dans le secret? Dieu voit tout. Il veut la pureté de mon cœur, de ton cœur. Il est contre la religion de façade, qui paraît belle aux yeux de tous, mais qui cache nos impuretés, nos désobéissances envers lui. Ça ne fait rien pour ça n'a aucune valeur devant Dieu de venir ici tous les dimanches et de prier peut-être à haute voix, et puis en fait dans la semaine de vivre dans le péché. Ça n'a aucune valeur. Nous arrivons maintenant à un tournant étonnant du livre d'Osée. Dieu, qui a porté des accusations envers les Israélites infidèles, révèle maintenant son désir profond envers eux dans Osée chapitre 2, versets 16 à 22. Et je vous invite à voir ensemble quels sont ces désirs profonds de Dieu envers son peuple infidèle. On va voir plusieurs points. Premier point, voici le désir de Dieu envers son peuple. Dieu veut lui exprimer encore son amour. Verset 16 du chapitre 2, je cite, « C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. » Waouh ! Malgré les fautes graves du peuple d'Israël, Dieu ne l'a pas rejeté. Alors que l'alliance devait être rompue, Dieu veut garder son alliance. Dieu continue à vraiment l'aimer. Il veut reconquérir son peuple, le mener dans le désert loin des autres dieux, loin de toute richesse, pour être seul avec lui, parler à son cœur, l'attirer à lui. Un peu penser comme un homme hein, qui veut reconquérir le cœur de sa femme. Dans Osée chapitre 3, verset 1, Dieu dit à son prophète quelque chose d'encore plus surprenant. Écoutez bien, c'est vraiment surprenant. Il dit ceci à Osée alors que sa femme s'est déjà prostituée à plusieurs hommes. Elle a couru après plusieurs amants. Voici ce qu'il dit à Osée, qui est déjà là. L'a rejeté parce qu'il est, c'était grave ce qu'elle avait commis. Il dit ceci, « Va encore aimer une femme adultère aimant le mal. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux de raisins consacrés. » C'est fou. Alors que Gomer est totalement infidèle au point d'avoir couru après des amants et se prostituer. Dieu appelle le prophète Osée à encore l'aimer. Alors, par rapport à ce verset, d'autres y voient quelqu'un d'autre, mais ce serait pas logique dans la suite du texte que Dieu demande à Osée d'aller chercher quelqu'un d'autre que Gomer, cette prostituée. Osée est appelé à encore l'aimer. Et les mots sont forts. Il doit de nouveau aimer cette femme adultère, aimant le mal. C'est encore une image pour parler de la relation de Dieu avec son peuple. Le prophète doit faire comme Dieu qui aime encore les Israélites, alors qu'ils sont totalement infidèles et encore dans leur péché. Comment le prophète Osée a-t-il fait pour aimer de nouveau sa femme adultère, qui maintenant aime le mal ? C'est fou. De même, comment le Dieu saint a-t-il fait pour aimer encore les Israélites qui, eux aussi, ont couru après de faux dieux et ont aimé le mal ? Ce texte me dépasse. Il est difficile de comprendre ici l'amour de Dieu. Sa grâce est vraiment sans limite. Dieu ne ferme pas les yeux face au péché. Car il les révèle. Il est attristé, il est même en colère face au péché de son peuple. Il prévoit même d'envoyer un jugement terrible. Mais il révèle son fort désir de retrouver la relation avec son peuple. Il est en fait toujours prêt à pardonner parce que son amour est inlassable. Par les avertissements et les annonces de jugement, Dieu veut amener les Israélites à la repentance, à lui demander pardon. Un changement de conduite. Dieu va même les dépouiller de toute leur richesse pour les amener à comprendre que les faux dieux ne sont que néant, ils n'apportent rien du tout. Le peuple a exclusivement besoin d'une relation avec le Dieu véritable. Dieu fait tout pour que son peuple revienne à lui, car il ne se lasse pas de l'aimer et de l'attendre. Quel est le désir profond de Dieu envers son peuple infidèle ? Deuxièmement, Dieu veut lui donner l'espérance. Dieu veut lui donner l'espérance. Verset 17, « C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Achor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Je briserai l'arc et l'épée. et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays et je les ferai reposer dans la sécurité. » Dieu dit à son peuple que la vallée d'Achor, qui est une vallée de tourments, deviendra une porte d'espérance. En plein milieu d'annonces de jugement que le peuple mérite à 1000%, Dieu exprime son désir là, le plus profond, donner l'espérance, donner la sécurité. N'est-ce pas ce que Dieu veut nous donner, à nous, à chacun d'entre nous, à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ? Dieu veut donner l'espérance de la vie éternelle, une sécurité éternelle qui n'aura pas de fin dans sa présence. Le texte nous donne comme un avant-goût du paradis où la guerre n'existera plus. C'est bien de le dire aujourd'hui, hein. Plus de guerre.
Oh là là.
Quelle belle espérance! Dieu instaurera une paix complète, totale. Troisièmement, le désir de Dieu, le désir profond de Dieu, c'est une relation intime avec lui. Dieu veut une relation intime avec son peuple. Verset 18 du chapitre 2. « Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Verset 21. « Puis pour toujours, je te fiancerai à moi, je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » Alors, combien de fois c'est écrit « je te fiancerai » Comme si le peuple n'avait pas compris. Hein. Trois fois dans notre texte. Déjà, on trouve les mots « mon époux » qui expriment le désir de Dieu que son peuple vive une relation intime avec lui. Et puis, comme je l'ai dit, trois fois, il est dit « je te fiancerai à moi ». Les fiançailles représentent ici l'équivalent du mariage. À cette époque, elles avaient le sens d'un engagement légal fort. Même si les fiancés ne vivaient pas encore ensemble. Ces fiançailles symbolisaient une alliance nouvelle qui va unir Dieu à son peuple. Dieu, ici, ne veut pas donner un demi-pardon. Le pardon que Dieu veut donner à son peuple est parfait, complet. Il veut reprendre la relation à zéro et recommencer avec son peuple une relation d'amour comme deux personnes amoureuses qui commencent une relation intime pour se marier. Dieu veut une relation intime accompagnée de toute la fraîcheur du premier amour. Et j'ai envie de dire, seul Dieu peut faire une chose pareille avec un peuple infidèle. C'est arrivé que je vois des situations de personnes, sans parler de relations de couple, il y a aussi des relations de couple, mais aussi d'amitié forte, de voir des personnes qui ne s'entendaient plus sur une chose ou une autre, et ça a brisé l'amitié, ou ça a brisé la relation. Et ces personnes ont beau se revoir, ont beau se demander pardon, assez souvent, les relations sont difficiles. Mais Dieu a cette capacité incroyable à mettre nos péchés dans l'oubli. Pourtant, comment Dieu peut oublier? Mais il n'y pense plus. Et il nous aime comme si c'était la première fois. Quand je reviens à lui. Incroyable. Seul Dieu peut faire ça. À la fin du verset 21, il est écrit « Tu connaîtras l'Éternel ». Il ne s'agit pas d'une connaissance théorique ici, mais d'une connaissance personnelle, profonde de Dieu, d'une relation forte et intime avec lui. Quatrième et dernier point, Dieu veut transformer le cœur de son peuple. Verset 19 et aussi les versets 21 à 22, je cite, « J'ôterai de sa bouche les noms des Baals et le souvenir même de ses noms se perdra. » Verset 21, « Puis pour toujours, je te fiancerai à moi, je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai où ? En toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi, quoi ? La fidélité que tu n'as pas. Et tu connaîtras intimement l'Éternel. Dieu veut transformer les Israélites en profondeur. Alors que les Israélites avaient oublié le vrai Dieu, ils seront transformés de l'intérieur pour ne plus l'oublier, mais plutôt pour oublier les faux dieux. Ils entreront dans une relation nouvelle avec le vrai Dieu et ils s'attacheront à lui de manière profonde. Et comment cela va-t-il se produire ? La relation entre Dieu et son peuple sera marquée, vous l'avez entendu, par la justice, la droiture, l'amour et la tendresse. Dieu lui-même mettra cela dans le cœur des Israélites. Sa justice, sa droiture, son amour, sa tendresse, sa fidélité pour qu'ils respectent les termes de l'Alliance. Ce qui est annoncé ici, je pense que vous entendez des choses qui ressemblent à un futur. Ce qu'on entend ici, qui est annoncé, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et l'envoi de son Saint-Esprit que chaque croyant pourra avoir un cœur transformé et exprimer la justice, la droiture, l'amour, la tendresse et la fidélité de Dieu. Amen. Dieu, au travers du prophète Jérémie, parle de cette transformation ainsi. Plusieurs connaissent ce texte, Jérémie, chapitre 31, verset 33. « Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. » Quelle promesse extraordinaire. Mes amis, malgré les nombreux péchés de son peuple, Dieu révèle qu'il ne se lasse pas de l'aimer. Et nous avons vu ensemble quatre choses. Dieu veut lui exprimer encore son amour. Dieu veut lui donner l'espérance. Dieu veut une relation intime avec lui. Dieu veut transformer son cœur. Tout cela est totalement immérité. Osée ne nous présente pas un Dieu qui pardonne tout d'une manière irréfléchie, il ne faut pas mal comprendre. L'amour de Dieu envers nous n'est pas aveugle. Ne faisons pas comme certains qui se plaisent à pécher, à désobéir à Dieu, et qui disent « ce n'est pas grave, Dieu pardonne tout, c'est son métier ». Mes amis, agir ainsi, c'est ne pas connaître Dieu, c'est lui manquer sérieusement de respect. Vivre dans le péché en plus, sans demander pardon à Dieu et sans nous détourner de nos péchés, c'est nous éloigner de lui et aller tout droit en enfer, dans ce lieu de tourment, loin de sa présence. Dieu attendra toujours de nous la repentance. C'est-à-dire de reconnaître nos fautes, nos péchés, et de lui demander pardon. C'est en lui demandant pardon et en choisissant de suivre Dieu que nous pouvons recevoir sa grâce, son pardon et jouir de son amour. N'est-ce pas incroyable ce que le prophète Osée nous laisse ce matin ? Il nous a révélé un amour infini, l'amour infini de Dieu pour nous. J'aimerais que nous puissions regarder un texte du Nouveau Testament qui va vraiment dans ce sens et qui dit que Dieu nous montre qu'il nous aime tous malgré nos péchés, alors que nous étions dans la boue de notre péché. Je cite Romains chapitre 5, versets 6 à 8. « Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. » Et pour nous aider à bien comprendre, l'apôtre Paul continue et il dit « À peine accepterait-on de mourir pour un juste ?» Pas simple. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien, ok. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Pourquoi Paul dit ça comme cela ? Ça veut dire que Dieu ne fait pas ça pour des gens bien. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Des pêcheurs, on ne parle pas d'aller à la pêche, hein, mais d'être des pêcheurs, des personnes qui ont cette tendance à pêcher, à faire ce qui déplaît à Dieu. Nous étions, nous aussi, comme des prostituées qui courent après d'autres amours. Nous courions tous après l'amour du pouvoir, ou de l'argent, ou de la reconnaissance sociale, ou des plaisirs en tout genre. Nous étions tous dans notre péché, dans nos désobéissances à la loi de Dieu, à ce qui lui plaît. Nous étions tous rebelles à Dieu. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté avant que nous fassions quoi que ce soit. Est-ce que nous avons supplié Dieu pour nous sauver ? Non, on n'a même pas eu le temps de le faire. Nous n'avons pas fait de bonnes actions pour qu'il nous pardonne non plus. Et même si nous pouvions faire de bonnes actions, nos meilleures actions envers Dieu ne pourraient nous sauver. Mais l'amour passionné de Dieu, cet amour incroyable, éternel, cet amour touchant de Dieu envers nous, s'est manifesté par Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Il a pris sur lui nos fautes. Il a été condamné à notre place. Il n'existe aucun amour au monde plus grand que celui-ci. L'amour de Dieu est ce dont nous avons tous besoin. Alors venons à lui. Si nous n'avons jamais fait la paix avec Dieu, si nous ne nous sommes jamais approchés de lui, faisons-le maintenant. Pour recevoir son pardon, sa grâce, et jouir de son amour. Revenons à lui si nous nous sommes détournés de lui, si nous nous sommes éloignés de Dieu, si nous vivons dans le péché. Revenons à lui. Demandons-lui pardon et recevons son pardon, sa grâce et jouissons de son amour. Devant l'ardent amour de Dieu, quelle doit être notre réponse ? Je l'ai déjà un peu dit. Devenir à lui. Nous devons répondre à Dieu aussi par notre reconnaissance, par notre amour, par notre obéissance. Cherchez à ce que notre cœur soit pur dans sa présence. Nous devons répondre aussi en vivant jour après jour dans une relation toujours plus intime avec lui, parce qu'il veut l'intimité et nous en avons tant besoin. Vivons dans l'intimité avec Dieu, par la prière, la lecture de la parole de Dieu. Et j'ajouterai aussi, Dieu nous a donné la puissance pour vivre, pour lui plaire. Et donc, croyons en sa toute-puissance. Et si ce matin, Satan a réussi à te décourager, maintenant reviens à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui a le doigt pointé sur toi comme ça, te disant, tu as péché, tu devrais. Ça, c'est Satan qui prêche. Mais lui, si tu lui laisses la victoire, tu vas constamment être dans la culpabilité. Mais Dieu ne nous amène pas dans la culpabilité. Bien sûr, il y a une certaine forme de culpabilité face au péché. Et donc, au début, c'est cela. Mais un vrai chrétien ne demeure pas dans la culpabilité. Ce n'est pas pareil. À un moment donné, on vient à Dieu, on demande pardon pour nos péchés. Et on est reconnaissant pour son pardon et sa grâce. Je parlais cette semaine avec un frère et puis je disais certaines choses que je vivais et puis je me disais si je rencontrais Dieu là, il y a cet aspect de ma vie où je me dis je suis pas fier quoi. Et je disais voilà, si je viendrais avec ce fardeau là quoi. Et puis il me dit Manu, quand tu viendras dans la présence de Dieu, tu viendras pas avec ça. Tu seras tellement heureux d'être dans sa présence. Et pendant qu'on discutait, d'un coup, j'ai dit quelque chose et puis il a souligné ça. Il disait, quand on ira dans la présence de Dieu, on sera plus conscient de la grâce de Dieu que de nos fautes. Prions. Dieu notre Père, ton amour nous dépasse. Alors que nous étions loin de toi, méritant la mort et l'enfer, tu as tout accompli à la croix pour nous sauver. Dans le livre d'Osée, tu exprimes un amour infatigable envers ton peuple. Tu veux lui exprimer encore ton amour, tu veux lui donner l'espérance, tu veux une relation intime avec lui et tu veux transformer son cœur. Ce qui est touchant, c'est que tu veux la même chose pour nous, car tu nous aimes. Oh combien ton amour est immense. Pardon de ne pas t'aimer autant en retour. Pardon de passer si peu de temps avec toi. Rends-nous toujours plus conscients de ton amour. Transforme-nous par ton amour. Et que notre quotidien soit marqué par notre reconnaissance envers toi, pour ton immense amour. Seigneur, tu connais celles et ceux qui peut-être se battent avec un péché et ont du mal à vivre la relation avec toi et se disent à chaque fois, mais j'ai fait tellement le mal. Dieu ne m'acceptera jamais dans sa présence. Seigneur, je prie pour ces personnes. Libère-les. Qu'elles soient aujourd'hui conscientes de ton immense amour et transformées par ton amour. Et qu'elles expérimentent la puissance de ton esprit pour vivre des victoires. Seigneur, nous te prions ensemble que le monde entier soit touché par ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.